Notre invité aujourd'hui est Alain de Salvron pour son dernier livre en direct avec votre envoyé spécial aux éditions L'Archipel. Bonjour Alain de Salvron.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour la sortie de ce livre. On va commencer tout de suite, on va raconter ce que vous dites dans le livre. Et on va commencer par votre enfance que vous avez passée à Berlin. Vous étiez le fils du numéro 2.
Oui, tout à fait. Mon père était donc le numéro 2 du gouvernement militaire français, qui était dirigé par un général et qui avait un diplomate comme numéro 2. Mon père était ce diplomate. Et donc, effectivement, j'ai passé mon enfance dans cette ville. Et il faut se remettre dans le contexte. C'était la guerre froide. À tout moment, véritablement, on pouvait craindre que Berlin soit envahi par les troupes soviétiques qui étaient stationnées de l'autre côté de la ville, hein, dans la partie est de la ville. Et donc, c'était une atmosphère très particulière. La ville est en plus complètement encore détruite après les bombardements de la guerre, surtout la partie est. Et par exemple, pendant la crise de Cuba... Vraiment, on se disait, on va être les premières victimes de la Troisième Guerre mondiale. Voilà, j'ai été élevé dans ce contexte et je pense que ça m'a ouvert justement l'appétit, si je peux dire, pour le journalisme et couvrir en particulier les crises mondiales.
Alors, vous étiez à Berlin et vous racontez dans votre livre que de temps en temps, vous alliez à Strasbourg, là où nous sommes installés. vous regardez quoi comme souvenir, comme image?
Oh, écoutez, comme souvenir enfant... Pas grand-chose en vérité, mais je suis retourné à Strasbourg plusieurs fois depuis, et c'est une ville que j'adore. J'adore Strasbourg.
Qu'est-ce qui vous plaît à Strasbourg?
J'y allais soit en touriste, soit par exemple, la dernière fois que j'y suis allé, c'était au moment de la mort de Simone Veil.
Ouais.
On m'a envoyé à Strasbourg pour évoquer Simone Veil, la construction de l'Europe, etc. Voilà.
Alors, vous avez un deuxième pays qui vous tient à cœur, en tout cas une région du monde, c'est le Moyen-Orient, et en l'occurrence Beyrouth, où vous aviez fait vos premières armes, on va dire. C'était compliqué à l'époque parce que la guerre commençait, il y avait déjà de la guerre civile. Question toute simple, quand on va dans un terrain de guerre, qu'est-ce qui vous anime? La volonté d'informer ou la peur aussi?
Oh, écoutez, fallait être fou, en vérité, pour aller à Beyrouth en 1980 avec toute sa famille. Hein, pour
y donc vous l'êtes un peu, alors.
Pardon?
Vous l'êtes un peu fou.
Sans doute, oui, sans doute. Enfin, j'ai pas regretté, hein, parce que, bon, c'était la guerre civile encore, c'était assez dangereux, on a vécu plusieurs crises, et en particulier l'invasion israélienne en 82. Et d'ailleurs, j'ai été obligé de rapatrier ma famille vers la France. Mon employeur me l'avait ordonné. Mais c'était aussi très exaltant. Si vous voulez, les périodes de guerre sont les périodes que vous vivez intensément. Intensément parce que demain, vous savez pas ce qui va arriver. Vous pouvez ne plus être en vie. Donc, vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Et je veux dire que ce séjour de Beyrouth m'est toujours resté dans le cœur. Et aujourd'hui, par exemple, quand je vois la situation au Liban, en pleine crise économique, les gens qui ont faim, il y a 50% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, bah, ça me fait mal. Voilà.
Mais la peur ne vous a jamais traversé l'esprit quand on est sur un terrain comme ça?
Écoutez, la peur, c'est un phénomène étrange. On a peur avant. Et quand on est dans le conflit, quand ça tire de partout, quand il y a des bombardements, eh ben écoutez, on n'a plus peur parce qu'on a d'abord son métier à faire, c'est-à-dire observer, pouvoir le raconter.
Mais
on
le métier directs. Passe avant la vie de l'homme?
Oui, quelque part. Quelque part, oui. Oui, et si vous voulez, on n'est jamais obligé d'aller sur un terrain de guerre. On est toujours volontaire. Aucune rédaction, enfin pas que je connaisse en tout cas, vous oblige à aller sur un terrain de guerre, ça serait désastreux. Donc c'est quelque chose que vous souhaitez, et vous le souhaitez parce que les guerres, hélas, sont toujours des moments forts de l'histoire, et donc vous avez l'impression de partager comme ça ces moments de l'histoire. Par exemple, quand j'étais à Bagdad en 2003, j'avais vraiment le sentiment de vivre une page qui sera dans les livres d'histoire pour nos petits-enfants. Donc, et puis vous savez, une guerre, c'est à couvrir, c'est quand même assez passionnant, quoi, parce que c'est tellement fort. Et puis vous avez les deux belligérants, vous pouvez avoir des informations.
Justement, je voudrais revenir sur un point que dans notre communauté on évoque souvent, c'est le parti pris des médias européens contre Israël, en tout cas en faveur des Palestiniens. Pour vous, c'est pas exact?
Bah, écoutez, oui et non, c'est-à-dire, moi j'ai beaucoup d'amis en Israël, j'y ai été très très souvent, parce que dans la période 2000-2003, je couvrais le Moyen-Orient depuis Paris, mais ouais. J'étais très souvent à Jérusalem, c'était la deuxième intifada. J'aime beaucoup le pays lui-même, et le peuple juif en particulier, mon père a été déporté aussi pendant la guerre.
Exact.
Voilà, donc, mais c'est vrai que je souffre aussi de voir la situation qui est faite aux Palestiniens, je pense que... Vous savez, j'ai eu une grosse déception, parce que après la guerre de 82 au Liban, après Sabra et Shatila, la mobilisation qu'il y a eu de la part des Israéliens, et qui a contraint d'ailleurs Ariel Sharon à démissionner, je me suis dit, écoutez, la solution viendra de l'intérieur, du peuple juif lui-même, de son histoire. C'est pas un peuple colonisateur, c'est pas un peuple qui peut supporter comme ça d'être une puissance occupante éternellement. Donc j'ai été très optimiste de ce point de vue-là. Et quand il y a eu les accords d'Oslo, 10 ans plus tard, je me suis dit, oui, voilà, je ne me suis pas trompé. Effectivement, ça va venir de l'intérieur d'Israël, et c'était porté par Rabin, évidemment, à ce moment-là. Et puis tout a glissé, tout a dérapé. Et aujourd'hui, je suis très triste, je dois dire. Très triste de voir qu'on n'a pas trouvé une solution, qu'on est toujours dans un statu quo qui n'est pas satisfaisant.
Alors, en direct avec notre envoyé spécial Alain Chalvron aux éditions L'Archipel, juste question un peu hors du livre, il n'y a aucune photo dans votre livre, c'est une volonté ?
Non, on y a pensé à un moment donné, et puis on a abandonné l'idée en se disant...
À quoi bon ?
En me disant, voilà, à quoi bon, et puis les gens me connaissent, ils m'ont vu à la télévision pendant des années et des années, je suis rentré dans leur salon.
D'accord.
Alors voilà. Alors, je ne vais pas leur imposer en plus d'être dans un bouquin.
Justement, vous faites quoi ? Vous avez quitté France Télévisions ? Vous êtes toujours...
Oui, j'ai quitté France Télévisions il y a 2-3 ans.
Oui.
Et je continue à travailler, naturellement. On n'est jamais retraité quand on est journaliste. Et donc, j'ai écrit ce livre. Je fais de la formation de jeunes journalistes. Et parce que vraiment, c'est le plus beau métier du monde.
Il n'y avait pas une mission qui vous a été donnée par Delphine Arnaud pour travailler sur les rédactions, je crois, non ?
Ah, ça, c'était à l'époque, oui. Ouais. J'ai fait ce qu'on appelle un audit au moment de mon retour.
Hein ?
qui n'a pas servi à grand chose du reste. les audits ne servent jamais à rien, il faut bien savoir, donc j'aurais dû accepter cette mission. Et voilà, et depuis je fais aussi des documentaires, voilà.
Alors, vous avez été correspondant, on l'a dit, à Washington, au Japon, dans toutes ces contrées, on va en venir dans un instant. Moi, j'ai comme une question dans ce livre, liée à les rencontres et l'histoire des grands événements que vous avez vécu, mais il y a aussi les autres rencontres. Des gens qu'on connaît beaucoup moins et qui sont quelquefois plus intéressantes que les rencontres de personnalités. Vous avez voulu intégrer ces histoires pour qui et pourquoi ?
Vous avez tout à fait raison, vous avez complètement raison. Alors c'est vrai, j'ai pu rencontrer par exemple tous les présidents américains, sauf Trump, lui j'étais déjà plus en fonction à ce moment-là, les présidents français. Mais les gens qui m'ont le plus marqué... Ce sont effectivement des anonymes et souvent des gens en souffrance. Alors, je vais vous dire, par exemple, les gens que je crois qui sont le plus proches de moi dans le cœur, ce sont les Haïtiens. J'ai été en Haïti pour faire un reportage sur un sujet terrible, les enfants esclaves qu'il y a là-bas, qu'on appelle les restes avec, parce qu'ils sont censés rester avec la famille où on les place, où on les appelle faits pour ça aussi, parce qu'ils sont faits pour être esclaves.
Exact.
Et j'ai vu dans leurs yeux de ces gamins, parfois de 7-8 ans, tellement de détresse, tellement de malheur. Vous savez, quand vous avez une petite fille d'une dizaine
d'années... C'est ça qui m'étonne souvent chez les journalistes comme ça. Vous êtes papa de notamment de Marc de Chalvron, qui est journaliste à France 2. Jamais le cœur du père respire quand on fait un reportage. On essaie de se sortir du rôle qu'on est.
Non. Non, franchement, on a une personnalité et on est ému. Je peux vous dire que, par exemple, en Haïti, là, ce que je vous racontais, quand même, une petite fille de 10 ans qui vous dit « j'ai envie de mourir », c'est affreux. Un gamin de 8 ans, on lui demande « mais qu'est-ce que tu veux, toi, dans la vie ?» Il veut « je veux juste retrouver ma maman ». Ben, ça vous bouleverse. Toute mon équipe, caméraman, monteur, tout le monde était bouleversé. On n'est pas sorti de Haïti comme on est entré dans le pays.
Et alors, justement, ces gens-là que vous rencontrez en dehors des palais présidentiels, ils vous semblent plus intéressants que les autres ou pas ?
Non, on peut pas dire qu'ils sont plus intéressants, mais tout le monde est intéressant. Chaque être humain dans cette planète est intéressant. Alors évidemment, quand vous rencontrez une tête couronnée, vous avez... en général, ce sont, en tout cas ceux qui sont élus, si vous voulez, ce sont des gens qui ont une vraie personnalité, un charisme, un message, qui sont des gens intéressants. Hein. J'ai pas rencontré d'élus qui soient inintéressants, en vérité. Mais vous pouvez trouver des choses intéressantes dans tout un chacun. Franchement, alors particulièrement en Israël, je dois dire, alors là où vous avez quand même... Non, mais c'est vrai, vous avez encore dans ce pays la génération qui a connu la guerre et les horreurs de la Shoah. Mmh. Et franchement, quand vous allez en Israël, que vous rencontrez ces gens-là, ça vous prend les tripes.
Alain de Chalvron, en direct avec notre envoyé spécial. Le titre, justement, Alain de Chalvron, c'est vous qui l'avez trouvé ?
Non, c'est l'éditeur.
Ah, d'accord.
l'éditeur. Je suis pas sûr que j'aurais pris le même titre, mais finalement, bon, ça correspond assez bien au contenu du bouquin.
Alors, vous êtes l'un des rares journalistes, Alain Chalvron, à avoir occupé le poste de directeur de la rédaction d'une grande chaîne et après de redevenir journaliste. Oui. J'ai pas très bien compris en général. Quand on est directeur de la rédaction, on n'a pas envie de redevenir journaliste ou alors l'appel était trop fort.
Oui, alors effectivement, j'ai dirigé trois rédactions même. J'ai dirigé RFI, Radio Monte Carlo et puis France 2. Alors, si vous voulez, après cette période de direction où j'ai envoyé des gens sur le terrain et je me disais mais putain, pourquoi c'est pas moi qui vais là-bas quoi. Au bout de trois ans à la tête de France 2, vraiment je voulais retourner sur le terrain. Et Jean-Pierre Elkabbach, qui a été nommé à ce moment-là, m'en a donné l'occasion. Alors il m'a dit mais ça vous embête pas, après avoir dirigé tous ces gens-là, de vous retrouver comme ça à la base ? Je lui dis non, je ne souhaite pas.
D'ailleurs, vous dites que les journalistes sont un peu ingrats vis-à-vis des directeurs de la rédaction. Vous maintenez ?
Oui, parce que c'est pas une partie de rigolade, hein, croyez-moi. Alors surtout une rédaction comme France 2, vous avez d'abord une responsabilité énorme, parce qu'il y avait quand même 10 millions, à l'époque, il y avait 10 millions de téléspectateurs tous les jours, et donc il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Et puis vous avez tout un côté DRH, si je peux dire, c'est-à-dire gérer les gens, et en télévision, les gens ont souvent un ego disproportionné que vous devez gérer malgré tout.
La porte et tu descends l'escalier. T'arrives en bas, la rue est là. C'est plein de bruit, d'odeur et de fruits défendus. Et c'est qu'un début. Et ta porte tout vue. Allez, tape la lampe à main, tape la lampe, la tape encore une fois. T'as tout à choix, c'est tout à toi. Tape la lampe à main, tape la lampe, la tape encore. Tu rêves ou quoi, t'en reviens pas.
La rue c'est la vie qui va. Viva la viva la viva. C'est la corde et la cobra. Viva la viva la viva.
Ça déboule de tous les côtés. Tu te surprends à regarder un bas de soie qui file au pied d'une inconnue. T'en es tout ému. T'as pas tout perdu. Allez, tape là dans ma main. Tape là, là, tape encore une fois. C'est le sud en bas de chez toi. Tape là dans ma main. Tape là, là, tape encore une fois.
La vie qui va. Viva la
toi, du bleu en haut des toits. Chaud le soleil, chaud chaque pas, qui va vivre à la vida.
Chalvron, vous, après, on vous a envoyé notamment comme correspondant aux États-Unis. C'est un peu le Graal des correspondants, les États-Unis.
Oui, je dirais que c'est le Graal parce que vous êtes très exposé. Si vous voulez, vous êtes d'abord, c'est quand même le goulot d'étranglement du monde, hein, si on peut dire. Tout passe par les États-Unis, hein, tous les problèmes de la Terre, que ce soit la Corée du Nord ou le Moyen-Orient, par exemple. Donc, vous avez quand même une palette d'histoires à couvrir énorme, puis le pays, puis la politique intérieure, puis les affaires de société aussi aux États-Unis. Donc vous êtes très exposé, vous êtes là pratiquement à l'antenne.
Je vais venir sur une question qui me taraude aussi. On a l'impression toujours dans la presse européenne qu'il y a un anti-trumpisme primaire. Je me trompe ?
Non, vous vous trompez pas. Je pense qu'il y a effectivement un anti-trumpisme. Je dirais pas qu'il est primaire, parce qu'il me paraît bien souvent justifié quand même.
D'accord.
Quand vous avez, franchement, quand vous avez un chef d'État d'une nation de cette importance-là qui conseille à ses concitoyens de boire de l'eau de Javel pour ne pas attraper le virus,
c'est
franchement, les bras vous en tombent. Vous bien quand il dit, comme l'autre jour, si on fait moins de tests, on aura moins de cas. Si on fait moins de tests, on aura moins de cas.
Mais il dérange un peu quand même, dans le concert des nations.
Honnêtement, je crois qu'il fait beaucoup de dégâts. Hein. Honnêtement, très, très franchement, 4 ans de plus avec lui, je ne sais pas dans quel état sera le monde. Parce qu'au-delà de tout ça, au-delà de ces foucades, regardez par exemple la relation européo-atlantique, si vous voulez, entre l'Europe et les États-Unis, elle s'est tellement dégradée que je ne sais pas ce qu'il en restera dans 4 ans si Trump est réélu. Je suis assez inquiet, si vous voulez. Alors, je lui reconnais quand même quelque chose de positif, c'est d'avoir remis un peu les Chinois à leur place.
Ah.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à être... J'ai été correspondant en Chine aussi.
On
ne peut pas continuer à avoir des relations normales avec un pays qui vous vend 5 fois plus que ce qu'il vous achète. Donc, à un moment donné, il faut que les choses soient rééquilibrées. Et Trump a rééquilibré. Mais aujourd'hui, je trouve que ça va un peu loin. On est entré dans une nouvelle guerre froide qui peut devenir chaude. Le président chinois Xi Jinping a dit « Nous récupérerons Taïwan de gré
ou de force ».
Ou de force. Eh bien, si c'est de force, c'est peut-être la Troisième Guerre mondiale. Je ne suis pas très optimiste, pour vous dire la vérité. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas, on saura s'arrêter à temps. Mais de voir l'évolution du monde et aussi le réchauffement du cœur, etc. Enfin, tout ça me rend un petit peu triste et angoissé.
En lisant votre livre, Alain Chalvron, on voit bien que quand vous êtes allé à Rome, ça a l'air plus léger, plus ouvert. c'est aussi une période qui vous a apparemment beaucoup plu.
Oui, alors vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Il y a pas mal de lecteurs qui me disent « Mais c'est évident que c'est Rome que vous avez préféré. » Non, c'est pas vrai. J'ai aimé tous les postes à l'étranger. Franchement, c'est difficile de vivre expatrié dans un pays qu'on n'aime pas. Voilà.
Oui, donc, ça c'est vrai aussi.
Vous supportez pas le pays, c'est dur.
Ouais, donc, mais la Rome, on voit que c'est, on voit quand même que vous avez, vous êtes plus content, on va dire entre guillemets.
Ça se dit dans l'ordre. je reviens à votre question de tout à l'heure. J'étais donc directeur de la rédaction à ce moment-là, avec tous les emmerdements que ça suppose. Et tout d'un coup, je me retrouve à Rome libre, avec juste une équipe à gérer, une actualité très intéressante, parce que c'était la première élection de Berlusconi. Et puis, l'Italie est un pays merveilleux, vous avez mille choses à raconter. Et en plus, vous avez le Vatican qui vous permet, avec le pape, de faire le tour du monde. Donc, qu'est-ce que vous demandez de plus? C'est tout simplement merveilleux, quoi.
Alors après, vous êtes allé en tant que correspondant de tout le côté Asie du Sud-Est pour France 2. Et c'est un moment où il y a Fukushima et l'histoire du pull bleu dont tout le monde parle. On va peut-être pas en parler parce qu'on va laisser le choix aux éditeurs de lire cette histoire qui est d'ailleurs très marrante. Fukushima, vous vouliez y aller, on vous a empêché finalement, on vous a obligé le lendemain à y aller.
Oui, alors écoutez, non, quand on a vu les images du tsunami, on s'est dit, on part tout de suite, quoi. J'étais à Pékin à ce moment-là. Donc on va à l'aéroport vraiment pour prendre le premier avion, on prend deux, trois affaires dans un bagage, et on va à l'aéroport, et là, tous les vols pour Tokyo étaient annulés. Donc on a été obligé de partir le lendemain matin seulement. Et au début, si vous voulez, on y allait pour un tsunami, pour un tremblement de terre et un tsunami. On n'y allait pas pour une catastrophe nucléaire. Mais très vite, la catastrophe nucléaire a pris le dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très angoissant. Ça a quelque analogie, je dirais, avec l'épidémie que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que le nucléaire, la radioactivité, elle n'a pas d'odeur, elle se voit pas naturellement. Et donc, vous vous demandez tout le temps, est-ce que là, je suis pas dans une région radioactive, qu'est-ce qui se passe? C'est comme le virus. Le virus, il n'a pas d'odeur, il se voit pas non plus. Donc, on ne sait jamais si on peut attraper un virus. Alors voilà, c'était véritablement angoissant, à tel point qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont préféré repartir. Il y a même une équipe de télévision, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est arrivée de Paris, et qui est reparti dans le même avion.
Ah bah tant mieux.
Voilà.
Alors, justement, je voulais vous demander, dans votre longue carrière que vous avez à l'Inde des Salvons, il y a une période de votre vie, de votre carrière, que vous regrettez, ou entre guillemets, que vous avez préféré?
Non, véritablement, je vous redis un peu, j'ai vraiment aimé tous les postes que j'ai occupés.
Un peu plus que l'autre, non?
Écoutez, dans... j'ai tout aimé, mais pour des raisons parfois différentes. Si vous voulez, mon dernier poste en Chine m'a permis de découvrir un continent, l'Asie, et en particulier le fin fond de la Chine, là où les gens sont encore au 19e siècle pratiquement, et sont d'une chaleur incroyable, et ils vous accueillent, mais c'est merveilleux. Et cette découverte de la Chine, oui, ça a été un très bon moment. Alors, c'est mon dernier poste, vous me direz, je suis encore nostalgique de cette époque-là. Si vous me posez la question, je dirais oui, je suis un peu nostalgique de l'Asie encore.
D'accord. Alain de Salvron, vous êtes duc quelque chose? De Salvron, c'est un nom qui vient d'où?
ça vient d'un nom
en particule, hein.
Oui. Alors, ça vient d'un petit patelin. Qui s'appelle Chalvron, et qui est dans le Morvan, au pied de Vézelay, si vous voulez. En gros, c'est ça, donc le berceau de la famille. Mais on n'est pas duc ou quoi que ce soit par ailleurs. Hein. on était, je vous dirais, quoi, des notables du coin. Quoi, voilà.
Alors, Alain de Chalvron, vous, à la fin du livre, vous faites une critique assez acerbe de l'information d'aujourd'hui, surtout du 20h de l'époque Pujadas. Vous avez été brimé, déçu de cette période-là?
Écoutez, ce que je raconte, c'est pas particulièrement Pujadas, au contraire, j'ai de très bons rapports avec lui, mais vous savez, il a été débarqué d'une manière un peu autoritaire, je dirais. Et ça s'est pas très bien passé.
Il paraîtrait qu'au niveau de la rédaction chef du 20h pendant son règne, c'était aussi très autoritaire.
Oui, voilà, c'est ça qui a beaucoup changé. À France 2, on avait une grande liberté. on vous faisait confiance, on vous laissait exprimer votre propre talent, c'est-à-dire votre écriture, votre façon de voir les choses. Et progressivement, et surtout dans la dernière période où je suis rentré à Paris après Pékin, c'était tout le contraire. On avait toujours raison à la rédaction en chef. On vous imposait une façon de voir les choses. On vous imposait une écriture.
Il y a une personne en particulier ou c'est général ?
Oh, c'était, disons, la rédaction en chef en général.
D'accord.
Voilà. Vous savez, pour diriger, quand on dirige une rédaction de télévision, ce qui est délicat et ce à quoi vous devez veiller tout le temps, c'est l'équilibre entre ceux qui font le journal et ceux qui sont sur le terrain. Il faut que ça s'entende tous les deux. Il faut quand même que vous mettiez des limites à l'emprise que peut avoir ceux qui préparent le journal. Bon, c'est très important, évidemment. C'est eux qui décident, en dernier lieu, ceux qui passent ou pas, mais il faut aussi qu'ils respectent ceux qui sont sur le terrain.
Alors, si vous voulez passer 4 ou 5 heures à voyager, il faut acheter le livre de Alain de Chalvron en direct avec notre envoyé spécial « Les tribulations d'un grand reporter » aux éditions L'Archipel. C'est vraiment une belle histoire et un beau voyage avec plein d'événements très importants et la façon dont vous la racontez est très plaisante en tout cas. Merci à vous Alain Chalvron.
Je vous remercie infiniment. Je vois que vous avez bien lu le livre.
Voilà.
Je souhaite que tous vos éditeurs tous vos auditeurs en fassent de même. Et oui, c'est une façon de réviser un peu les 40 dernières années de notre histoire, parce que j'ai été sur beaucoup de ces événements. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À très bientôt, vous êtes. Au revoir.